Chapitre 19. C'était là une résolution hardie, téméraire, périlleuse, car en cette journée d'un dimanche printanier, elle était exposée à rencontrer des promeneurs venus de Rouen ou sortis tout simplement d'Oisselle, ce qui était plus grave encore, pour cueillir des primevères et des jonquilles dans la forêt ou pour faire leur provision de cyprins rouges dans la grande mare des Essarts. Mais comme elle n'avait ni le loisir ni la liberté de choisir le mieux, il fallait qu'elle risquât cette aventure, si dangereuse qu'elle pût être. L'après-midi du dimanche était la seule journée de la semaine où la Vaupalière fut maître de son temps. La seule aussi où elle fut elle-même certaine à l'avance de n'être point arrêtée ou accompagnée par son mari au moment où elle voudrait sortir. Ces deux considérations dominaient donc toutes les autres et devaient la déterminer. Si on la rencontrait dans la forêt, ce serait un accident. Si, au retour, son mari l'interrogeait sur son retard, elle répondrait comme elle pourrait. Elle aurait fait une visite, une histoire quelconque dont il prendrait ce qu'il voudrait. Le jour, l'heure et le lieu du rendez-vous fixé, elle n'avait plus souci que de savoir quel temps il ferait. Devait-elle souhaiter le soleil ou la pluie? Avec la pluie, il n'avait pas de fâcheuses rencontres à redouter, la forêt serait déserte, mais combien triste aussi! Au contraire, avec le soleil, combien belle et gaie. C'était un de ses chagrins et des plus vifs de n'avoir jamais pu se promener avec son amant en pleine campagne, appuyé à son bras, s'entretenant librement ou silencieux, mais enfin serrés l'un contre l'autre en écoutant la voix mystérieuse de la passion qui n'a pas besoin de la parole pour se faire comprendre. Que de fois, pendant les longues heures monotones et mélancoliques qu'elle restait dans le kiosque, avait-elle envié les amoureux qu'elle voyait se promener sur le quai le dimanche et le lundi, ou qui passaient devant elle en bateau, venus de Rouen ou d'Elbeuf, le matin, en partie de campagne? Comme ils se montraient heureux dans leur liberté, riant, chantant, s'embrassant, sans plus de soucis que s'ils étaient maîtres du monde. Ne connaîtrait-elle donc jamais cette joie, elle qui n'avait que quelques heures furtives de la nuit à de longs intervalles? Une belle journée pouvait la lui donner, bien rapide il est vrai, mais ce n'est pas autant que se mesure le bonheur, c'est à son intensité. Le dimanche, le soleil se leva dans un ciel clair qui promettait une belle journée, et elle se réjouit qu'il en fût ainsi. L'idée de la pluie protectrice était abandonnée, tant pis si on les rencontrait. La matinée, la messe, le déjeuner, les vêpres furent éternels. Jamais tant ne lui avait paru si long. Enfin, elle sortit de l'église et, se retenant pour ne pas marcher trop vite, elle prit le chemin des Essarts, non par la grande route, mais par le raccourci à travers champs, de façon à ce que ceux qui la verraient sortir du village ne sussent pas si elle se dirigeait vers la forêt ou vers le château. Où Antonin l'attendrait-il? Elle ne le savait pas précisément, mais à coup sûr ce serait en plein bois, là où l'on peut se cacher facilement. Elle n'avait donc qu'à monter et à aller jusqu'à la route du fond du Catelier qui coupe la forêt d'un bout à l'autre dans sa plus grande longueur, parallèlement à la Seine. Elle ne s'était jamais sentie si résolue, si vaillante, si insouciante du danger, et elle marchait allègrement, la tête dans le ciel, les yeux rayonnants, sans même se douter de la raideur de la montée. Quand elle quitta le raccourci pour arriver sur la grande route qui s'ouvrait droite devant elle, elle aperçut tout au loin quelques promeneurs espacés çà et là, sans qu'elle pût deviner, tant était grande la distance, s'ils venaient ou s'ils s'éloignaient. Donc, pour le moment, rien à craindre. Vivement, elle prit le milieu de la chaussée et respira avec ivresse, les narines dilatées, les yeux grands ouverts, toute frissonnante de la tête aux pieds. Pour la première fois, la forêt lui parlait d'une voix mystérieuse, profonde et vibrante qu'elle ne connaissait pas. Jamais soleil ne lui avait paru si vivifiant, jamais elle n'avait respiré senteur plus troublante que celle qui se dégageait des sous-bois humides, où déjà les troènes et les chevrefeuilles montraient leurs bourgeons d'un vert tendre. Quelle joie de vivre et d'aimer! Elle marchait la tête haute, avec la légèreté des papillons qui voletaient autour d'elle, et elle était arrivée à une sapinière sombre qui ne laissait pénétrer ses regards ni à droite ni à gauche, quand, tout à coup, elle entendit un appel, son nom prononcé à mi-voix, et en même temps, elle vit les branches basses d'un sapin s'agiter. « Hortense !» Elle franchit vivement le fossé et saisit les deux mains qui se tendaient vers elle. « Par ici !» Il écarta devant elle les branches qui se refermaient aussitôt derrière eux, et, marchant sur les aiguilles sèches amoncelées en une couche qui feutrait la terre, ils ne faisaient pas plus de bruit que des ombres impalpables. Ils ne tardèrent pas à arriver à un épais fourré, où ils se trouvaient à l'abri des regards et des oreilles, aussi bien que dans la chambre la plus solidement fermée. Alors il la fit asseoir et s'assit près d'elle. « Eh bien, dit-il, que s'est-il passé ?»«
Embrasse-moi d'abord, je parlerai après. Mais tout de suite, rassure-toi, j'ai trouvé moyen d'arranger les choses. Nous avons du temps devant nous. »«
Combien de temps ?»«
Ce que tu voudras, je rentrerai quand je rentrerai. Il n'en sera ni plus ni moins. »
N'étant pas pressée, elle put faire son récit lentement sans rien oublier. Ni son saisissement en apprenant le renoncement au grog et au sucre, ni sa défaillance dans le lit, ni ses angoisses en cherchant comment ils pouvaient reprendre le rendez-vous.
« Et tu as trouvé ?»«
Oui, tu vas ce soir même aller à Rouen nous acheter un compte-gouttes chez un pharmacien. » Il la regarda sans comprendre.
« Tu ne sais pas ce que c'est qu'un compte-gouttes ?»«
Mais si, un appareil en verre pour verser des médicaments délicats ou des poisons. »
« Précisément.
Et qu'en veux-tu faire ?»«
M'en servir pour lui verser de la liqueur de Fowler. »
« Mais c'est de l'arsenic, la liqueur de Fowler. »
« Parfaitement. »
« Le tuer ?»«
Comme toi, j'en ai eu l'idée. Pendant 24 heures, j'ai été décidée à le faire, mon plan était combiné, nous étions libres. » Je t'avoue même qu'il m'a fallu une belle vertu pour y renoncer. C'est la pensée qu'on ne doit recourir aux grands moyens que quand les petits ne peuvent pas suffire qui m'a arrêtée.
Alors que veux-tu ?
Le rendre malade.
Ah ?
Légèrement. Tu vas voir comme c'est simple. Et comme ce qu'on invente, gros et terrible tout d'abord, s'adoucit et se fond quand on se donne la peine de réfléchir. Il est certain que par la seule suppression de son grog, les malaises et les lourds sommeils dont il se plaignait vont disparaître. Il va donc trouver que le régime et la médication ordonnée par Annivelle sont excellents et, naturellement, les continuer. Que ces malaises reviennent, au contraire, ceux dont il se plaignait ou d'autres, peu importe. Annivelle perd toute autorité. Son traitement, qui était excellent, devient imbécile. Ce n'était pas la peine de se priver des grogs. Il resta un moment pensif. « Mais cette liqueur de Fowler, dit-il enfin, comment te la procures-tu? Comment l'administres-tu? Les pharmaciens ne vendent pas l'arsenic sans ordonnance. »
« Je n'ai pas à me la procurer, je l'ai. Du temps que je soignais mon caniche par ce remède, il m'en est resté une fiole qui suffirait, je pense, pour empoisonner 10 personnes et que j'ai gardée par hasard sans penser que j'aurais jamais à m'en servir. »
Sait-on pourquoi l'on garde les choses?
C'est pour verser quelques gouttes de cette liqueur que j'ai besoin d'un compte-gouttes, celui que j'avais étant cassé.
Et comment veux-tu verser ces gouttes?
Ni dans son verre, ni dans son potage, tu penses bien, car je serais obligé d'opérer à table, ce qui exigerait un talent de prestidigitateur que je n'ai pas malheureusement. Aussi ta question, que je me suis posée quand j'ai eu l'idée d'employer cette liqueur, n'a-t-elle pas été sans m'embarrasser tout d'abord? Mais comme on finit toujours par trouver, lorsqu'on se donne la peine de chercher sérieusement, je suis sortie de cette difficulté. Tu sais que le soir, il fume plusieurs pipes dont le tabac est enfermé dans un pot de marbre. J'arrose ce tabac avec la liqueur et au lieu de l'absorber en gouttes, il absorbe en fumée.
Et tu crois que cela peut produire de l'effet?
J'en suis sûre. Alors que je soignais mon pauvre chien et qu'il n'allait pas mieux, j'ai voulu me renseigner sur l'arsenic. Monsieur Turlure m'a prêté un dictionnaire et j'y ai trouvé toutes sortes de choses extraordinaires, et particulièrement qu'en Chine, on fume l'arsenic mêlé au tabac.
Sans danger?
Je n'en sais rien.
La question a cependant son importance, car si un accident arrivait...
Ne disais-tu pas tant mieux quand j'ai cru avoir donné double dose de sulfonal?
Le sulfonal n'est pas un poison, au moins je le suppose, tandis que l'arsenic en est un terrible qui se retrouve facilement.
C'est en théorie qu'on dit cela,
mais dans la vie pratique, c'est-à-dire dans les procès, on voit les médecins ne jamais pouvoir se mettre d'accord sur la question de savoir si le mort a été tué par l'arsenic ou par autre chose, ce qui prouve bien que la recherche de l'arsenic lui-même et de ses effets n'est pas si simple qu'on le prétend. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je ne le tue pas, je le rends malade, légèrement. Il renonce au traitement de Hannivelle, revient au grog et moi au sulfonal. C'est-à-dire que nos rendez-vous reprennent comme par le passé. Et ce compte-gouttes, comment te le remettre? Tu dois penser que de ce côté, j'ai mon plan aussi. D'abord, il est bien entendu, n'est-ce pas, que puisque nous allons être un certain temps encore sans nous voir, nous ne pouvons rester sans nous écrire, non seulement pour nous communiquer ce que nous avons intérêt à savoir, mais encore pour nous dire que nous nous aimons, car je ne supporterai pas quelques jours comme ceux que nous venons de passer. Voici donc ce que j'ai décidé. Tu vas faire une seconde clé de ton bureau que tu placeras demain soir avant de partir au fond de ta papeterie. En me levant la nuit, je la prendrai là et j'ouvrirai le tiroir de droite où tu auras enfermé et le compte-gouttes et la lettre que tu m'auras écrite, longue si tu as le temps de la faire longue, courte si tu ne peux dire que deux mots. Après demain matin, en arrivant, tu trouveras ma lettre à la place de la tienne. Si cela ne te forçait pas à te lever toutes les nuits, je dirais que cet arrangement est tout à fait ingénieux. Pour qu'il le devienne réellement et que toutes les précautions soient prises contre le hasard et même l'improbable, tu m'écriras avec du jus de citron et de mon côté je ferai de même. Les caractères paraissent quand on chauffe le papier. De cette façon, si par extraordinaire on ouvrait ton bureau, on n'y trouverait que du papier blanc. Es-tu femme de ressources ? Il le faut bien, mais il n'y a pas grand mérite à cela quand on aime. Maintenant que voilà tout convenu, assez là-dessus, n'est-ce pas ? Ne soyons qu'à notre amour.